Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Merci de nous retrouver pour une toute nouvelle page de ce carnet de région qui s'ouvre en cette année 2017 au nom de toutes les radios qui s'associent pour vous proposer ce magazine d'information et d'actualité en région chaque semaine en région Occitanie. Nous vous souhaitons une bonne, belle et heureuse année 2017, que cette année vous offre de la joie, du partage, de la santé et de la sérénité au sein de vos familles proches et amis. C'est donc parti pour ce carnet de région avec au sommaire de celui-ci. Nous parlerons du groupe Augeu qui rachète l'usine d'embouteillage Quézac, sujet de Ludovic Terol de 48FM. Un projet à destination et pour les enfants du Cambodge. C'est ce que nous proposera FM+, qui nous invitera à découvrir l'association Pour un sourire d'enfant qui est à l'initiative de ce projet. Du 1er au 9 février prochain, ce sera la 47e édition de l'Étoile de Bessèges, grande course cycliste à ne pas rater. Les détails et les précisions avec Radio Intervalle. Dans l'Hérault, l'opération des étoiles et des femmes a été lancée au mois de septembre dernier, une opération qui propose à 13 femmes en difficulté de se réinsérer dans la vie active. Les détails et les précisions avec Thomas Loret, de RCF Maglone Hérault. Et pour finir, ça y est, c'est fait, le cirque de Navacelles devient officiellement le 15e grand site de France et le 4e labellisé en région Occitanie. C'est le carnet de région, bienvenue. À Saint-Sever-du-Moustier, en Sud-Aveyron, l'association des nouveaux troubadours œuvre depuis une trentaine d'années pour favoriser la culture dans le village. Ainsi, à chaque année, un artiste est reçu en résidence pour ainsi réaliser une sculpture taillée dans la pierre locale, le grès rouge. Les précisions de nos confrères de Radio Larzac.
À Saint-Sever-du-Moustier, vous pouvez vous promener dans un étonnant paysage, le jardin des sculptures. Composé d'une demi-douzaine d'œuvres d'artistes contemporains, on le doit à l'initiative du musée des arts buissonniers, géré par l'association Les Nouveaux Troubadours. Paul Lemettet, directeur de l'association.
Alors, dès le début, il y avait l'idée de faire d'organiser des expositions dans le village. Un autre projet parallèle au musée, c'est un peu plus récent, ça fait 7 ans maintenant. Enfin, ça fait 6 ans, mais c'est la 7e édition de la résidence de sculpteurs. Cette idée, elle a émergé en se disant qu'on avait envie de proposer à des artistes des résidences et en même temps, ici, à Saint-Sever-du-Moustier, dans le sud d'Aveyron, on est dans la zone où il y a eu le plus de statues menhirs qui ont été découvertes. C'est quelque chose qui nous parle, qui nous intéresse beaucoup.
Et Qu'est-ce que c'est le statue menhir?
Alors les statues menhirs, bon maintenant les gens connaissent un peu mieux, mais c'est des sortes de pierres sculptées qui ont entre 3000 et 5000 ans et qui représentent un homme ou une femme. Mais il y a beaucoup de gens qui s'y sont intéressés, il y a eu beaucoup d'ouvrages sur la question. Et celles qui sont de notre région, elles sont faites dans du grès rouge. Nous, on est dans le rougier de Camarès, au niveau géographique. Et les statues menhirs qui ont été découvertes ici sont sculptées dans cette pierre-là. Et on s'est dit, on peut proposer à des artistes contemporains de travailler le même matériau que ces ancêtres qui ont tapé dans cette pierre, il y a des milliers d'années. Alors l'idée n'est pas du tout de refaire des statues menhirs, c'était pas du tout ça la question, mais de proposer à plein d'artistes différents de travailler la même matière. Et donc maintenant, tous les ans, on accueille en résidence, à l'automne, pendant quelques semaines, jusqu'à un mois des fois, un artiste et on lui propose de sculpter cette pierre du pays, cette pierre du coin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on propose à des gens qui sont... dont la sculpture sur pierre n'est pas forcément le matériau habituel. Ouais. Ce qui donne lieu dans cette résidence à des découvertes et pour les artistes et pour évidemment nous qui accueillons l'artiste et les visiteurs.
Cet automne, c'est l'artiste toulousain Centaure qui s'est attelé à la pierre de pays. Issu du graphe et de la culture lobro descendante du pop art, Centaure s'est installé sur la place du village pour offrir lui aussi une œuvre au jardin de sculpture, blotti derrière l'église.
Du coup, là, il y a des pierres qui ont été sculptées à chaque fois par les précédents artistes qui ont fait des résidences, avec des tailles de pierres qui ont été choisies, des réalisations qui diffèrent vraiment. Donc là, il y a la pierre de Pierre-Joseph, qui est très, très finement taillée, on va dire. Je présente un crâne un peu à l'obsada et dessus un rapace. Du coup, je me suis dit, waouh, quand même, passer après lui, ça va être chaud. Mais en fin de compte, non, je suis... plutôt content de passer après lui. Ça va changer, je pense, sur le village, ça sera une autre vision des choses, une autre façon de faire. c'est chouette de voir la différente façon dont les gens ont pu travailler. Il y en a qui ont travaillé beaucoup avec des disqueuses ou qui ont vraiment laissé la pierre brute. Ça donne un côté très lisse, là on voit les arrondis. Voilà, là c'est donc Ghosty 2011. On voit tous ces traits-là. Tous ces traits-là, c'est la façon dont la disqueuse s'enfonce dedans. Quand il est venu casser la matière, lui par exemple, il a vraiment laissé certains endroits la pierre telle qu'elle était. Donc elle est recouverte par de la mousse là. Et là, voilà, la mousse commence à s'emparer de la pierre, c'est chouette, c'est joli. Et là, c'est une maternité, ça s'appelle, quand on représente une femme avec un enfant. Et je l'aime beaucoup, et là, ouais, c'est aussi un travail des matières, c'est assez graphique, c'est pas mal. Et là aussi, on voit, avec comme on est, à mon avis, plutôt au nord ici, là, il y a de la mousse un peu sur toutes les sculptures. Voilà, et celle-là, c'est marrant, on dirait une vieille sculpture mythologique, un peu comme les mythologies qu'il y avait dans la région de la Syrie, entre le Tigre et l'Euphrate, là, toutes ces cultures avec des espèces de divinités assez étranges, à corps d'animaux. Ouais, c'est vraiment chouette. Donc c'est bien de voir les différentes façons dont les personnes qui sont passées ici ont pu travailler la même matière. Parce que c'est ça qui est bien, c'est ce qui donne l'unité de ce jardin de sculpture. C'est que c'est toujours la même pierre, c'est toujours le grès rouge, mais c'est traité de plein de façons différentes. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Est-ce que tu t'es inspiré de certaines ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis dit que j'allais essayer de me faire confiance à moi-même et de voir ce que ça donnerait.
Belle intuition lorsque l'on voit le résultat. Une sculpture hommage au statue menhir, sertie de détails issus de l'univers fantastique de l'artiste. On peut l'admirer sur la place du village pendant un an, avant qu'elle ne rejoigne ses consoeurs dans le jardin des sculptures.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Après 2 années riches en rebondissements, l'usine d'embouteillage de Quézac a enfin trouvé son repreneur avec le groupe Augeux. La semaine passée, Jean-Hervé Chassaigne, PDG du groupe Augeux, s'est rendu en Lozère pour ainsi rencontrer Élu, le préfet de la Lozère, président et présidente des chambres consulaires ainsi que le personnel de l'usine. Jean-Hervé Chassaigne, je le cite, s'est engagé à préserver l'emploi aux mêmes conditions salariales que celles de Nestlé Waters. Un investissement de plus de 3 millions d'euros également programmé sur les nouvelles orientations stratégiques. Écoutons Jean-Hervé Chassaigne.
Quézac est extrêmement complémentaire d'Augeux. C'est une eau qui est minéralisée, c'est une eau de caractère, quand Augeux est une eau très faiblement minéralisée. Donc ce sont deux eaux qui peuvent être commercialisées côte à côte et qui vont s'aider mutuellement pour pouvoir assurer donc une diffusion nationale. Des investissements importants vont être engagés sur le site dans les prochains mois. Nous avons besoin de moderniser l'outil industriel. Donc nous terminons, nous finalisons l'audit industriel dans les prochaines semaines pour pouvoir engager donc des investissements majeurs avant la saison afin de permettre vraiment de produire dans de bonnes conditions pendant l'été, qui est évidemment donc l'activité fortement saisonnière. Nous allons donc dans les prochains mois lancer une bouteille 50 centilitres. C'est un format nomade qui est aujourd'hui attendu sur le marché, qui permet donc rapidement d'obtenir des volumes additionnels. Donc c'est ce qui va être lancé là tout prochainement. Le verre n'est pas dans nos objectifs à un an ou deux. C'est un projet qui nécessite plus de réflexion, d'études, que l'on verra dans un second temps.
C'était Jean-Hervé Chassaigne, PDG du groupe Augeux, au micro de Ludovic Thérol de 48 FM.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
L'association PSE pour un sourire d'enfant prend en charge des enfants victimes du génocide au Cambodge et s'est fixée pour mission sortir les enfants de l'extrême misère et de les conduire vers une véritable autonomie. Un projet qui passe par plusieurs phases, ainsi les nourrir, soigner, protéger, scolariser et les éduquer. Pour assurer cette réussite de ces différentes missions, la première règle est de s'y adapter à chacun pour qu'il puisse ainsi évoluer à son propre rythme. Comme toute association pour un sourire d'enfant organise des événements qui permettent de récolter des fonds pour ainsi développer de plus en plus d'actions en faveur de ces enfants et de leurs familles qui en ont le plus besoin. Ainsi ce dimanche 22 janvier à Jacou et plus précisément à la passerelle Espace Jean-Marcel Castet, ne manquez pas ma très chère Mathilde, pièce à succès de Israël Horovitz, par la compagnie du Théâtre Solaire, interprète ce chef-d'œuvre avec brio. Tout de suite, Frédéric Mounier, comédien et metteur en scène, a gentiment accepté de répondre à quelques-unes des questions posées par nos confrères de la radio FM+, s'il nous accorde une interview par téléphone. Frédéric Mounier.
Imaginez, Mathias, un Américain d'une cinquantaine d'années, un petit peu à éternel adolescent, il a tout raté dans sa vie, il arrive à Paris pour récupérer un appartement dont il vient d'hériter de son père et il pense ainsi se faire un peu d'argent. Or, il va découvrir qu'il y a une vieille dame dans l'appartement et il va surtout découvrir une chose typiquement française qui est le viager. Alors, devant son désarroi, la vieille dame va lui laisser une clé en lui disant « puisque vous êtes un peu perdu à Paris, restez ici, l'appartement est immense ». Voilà, ainsi commence la pièce. Et pendant les quelques jours qui vont suivre, ce qui a commencé un peu comme un hasard va évoluer puisque le passé va ressurgir. Et ces personnes-là vont avoir leur vie totalement bouleversée, voilà.
Mmh. Alors sur scène, vous êtes un trio, Lysiane Magui interprète Mathilde Giffard, Mireille Faure endosse le rôle de Chloé Giffard, et vous, celui de Mathias Gold. Pour le metteur en scène que vous êtes, quel est le rôle qui vous a le plus intéressé ?
Écoutez, c'est peut-être celui que j'interprète, mais les trois rôles sont vraiment... très important, puisqu'il y a donc Mathilde, la vieille dame, mais aussi sa fille, Chloé, qui habite sous le même toit, et Mathias. Chacun a vraiment un vécu très particulier. Tout cela va se mélanger, se mixer, et on va découvrir des choses, des mystères du passé. Et les trois personnages sont réellement très intéressants à travailler. Vraiment, oui. Mm-hmm.
Alors cette pièce, vous l'avez jouée à de nombreuses reprises. En 2012, le rôle de Mathias Gold vous a permis de remporter un prix d'interprétation masculine. La troupe a obtenu plusieurs prix du public dans des festivals nationaux. Quelle a été votre réaction lorsque l'auteur Israël Horovitz assiste à deux représentations et quel a été le retour de celui-ci ?
Oui, et bien justement, il y avait beaucoup d'appréhension. Israël Horovitz est très exigeant par rapport aux manières dont certaines troupes adaptent ces pièces. Et je dois avouer que j'avais beaucoup d'appréhension. Mais à la fin de la pièce, lorsque je suis rentré dans ma loge, il était déjà là, les bras ouverts, et il m'a pris dans ses bras. Voilà, ça c'était la plus belle des récompenses. Donc je pense qu'il a adopté, a apprécié notre adaptation. Et on a pu en parler par la suite, voilà. C'était vraiment un moment très fort, oui.
Alors ce dimanche 22 janvier, vous jouez à Jacou au service d'une bonne cause. Vous permettez à l'association pour un sourire d'enfant de pouvoir récolter des fonds pour les différentes missions qu'elle s'est fixées. Jouer sur scène, c'est un partage avec le public, mais pour la compagnie du Théâtre Solaire, ça va au-delà du public, cette notion de partage, n'est-ce pas ?
Exactement, comme vous l'avez dit, c'est un partage avec le public, un échange, du plaisir des deux côtés, semble-t-il, avec cette pièce. Mais là, effectivement, nous offrons la représentation pour une cause qui a vraiment, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Et donc, effectivement, il y a encore plus de partage que d'habitude, vous l'avez dit, oui. C'est très fort et nous en sommes très heureux, toute la troupe en est heureuse, oui.
Frédéric Mounier, merci.
Merci à vous.
Et si vous aussi, vous souhaitez participer, rencontrer, même échanger, savoir un peu plus sur l'association PSE pour un sourire d'enfant, contactez Agnès Gallet de Santerre, en charge de l'antenne à Montpellier, qui organise différentes réunions tout au long de l'année à la salle polyvalente de Montferrier-sur-Lèze. Sinon, je vous invite à vous rendre sur le site directement, www.pse.ong/fr. Je répète, www.pse.ong/fr. Et vous pouvez également joindre l'association au 04 67 59 91 41. Je répète, le 04 67 59 91 41.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Du 1er au 9 février prochain, c'est la 47e édition de l'Étoile de Bessèges. Patrick Hers, chargé d'organiser cette épreuve. Et en dernière minute, on apprend notamment que 3 équipes supplémentaires seront présentes. Au total, 19 équipes seront donc au départ le 1er février. Et la télévision norvégienne couvrira d'ailleurs cette épreuve. Rappelons que la 47e édition de l'Étoile de Bessège se déroulera en 5 étapes. Les précisions de nos confrères de Radio Intervalle, Seraya Fonpiqué.
Patrick Hers, vous êtes chargé d'organisation de cette 47e édition de l'Étoile de Bessège.
C'est de plus en plus compliqué de tracer des parcours, que ce soit dans le Gard ou autre part. Hein. Mais encore dans le Gard, on est encore assez privilégié.
Alors cette année, vous nous avez fait bénéficier des progrès de la technologie par l'image.
Oui, alors là, c'est surtout que, on va dire, dans les bénévoles de l'Étoile de Bessège, il y a celui de Vigil qui a intégré l'équipe depuis l'année dernière et qui nous aide beaucoup sur notre site internet et qui a voulu apporter une touche un peu moderne. On va le reconduire. Donc il y aura effectivement toujours la dernière heure de course en direct avec Daniel Manjas. Donc sur le site, on va proposer aux radios locales et autres de leur donner de l'information toute l'après-midi, si ils sont preneurs, à travers Facebook ou à travers aussi leur site, ou en direct, s'ils souhaitent reprendre nos informations en direct, pourquoi pas. Donc on va travailler là-dessus maintenant avec la personne qui sera en charge de ça pour nous.
Alors quelles vont être donc les étapes d'ores et déjà sur le papier ?
Donc les étapes, on va dire que, comme on peut expliquer Roland à la présentation, vous savez qu'on essaye de se maintenir dans le Gard tant qu'on pourra. Donc cette année, on a eu la chance d'avoir Nîmes Métropole, donc qui a, sur la deuxième étape, rentré, on va dire, dans la grande famille de l'Étoile de Bessège. Donc on va dire que la première étape, elle, sera à peu près l'identique de l'année dernière, puisqu'on partira de Bellegarde pour arriver à Beaucaire. Seul le circuit final va changer, puisqu'on ne peut plus arriver sur le quai de la Paix. Mais on va arriver sur un circuit final qui fera 10 km et on arrivera sur la route de Comps. Mais l'avantage qu'il va avoir cette année, c'est qu'il sera plus dur puisqu'on aura un grand faux plat qui nous emmènera sur le giratoire de la route de Nîmes pour redescendre, pour remonter une côte de la route de Comps. Et l'arrivée sera dans une petite côte, on va dire. Notre deuxième étape, donc celle-là, elle est un peu nouvelle. Le départ de Nîmes, ça, c'est pas un changement. La ville de Nîmes, maintenant, est partenaire depuis des années de l'Étoile de Bessège, et ça, on les remercie. Mais Nîmes Métropole, qui souhaitait intégrer donc cette étape déjà en 2016, cette année, nous avons donc signé un accord avec Nîmes Métropole. On sera donc entièrement sur le territoire de Nîmes Métropole, avec le départ de Nîmes, l'arrivée à Rodillan, et on a, à leur demande, essayé de traverser un maximum de communes de l'agglo. La troisième étape, je ne sais pas s'il faut la présenter, Bessège, d'autres étapes de montagne, comme on l'appelle, la grande étape dans la nature, mais bon, qui fait toujours très mal aux coureurs. Donc on attend toujours un beau vainqueur, et si ça peut être le même que l'année dernière, un Sylvain Charvanel ou un autre, ça nous ira très bien. La quatrième étape, là aussi, on remercie la commune de Launay qui nous soutient depuis quelques années, mais qui nous a déjà soutenus. Il y a des lustres en arrière et donc c'est vraiment la famille de l'Étoile. Là. Et donc cette année, on partira de Chusselan. Donc l'année dernière, c'était Tavel, cette année, c'est Chusselan. Donc on a notre cave qui s'améliore tous les ans. Nous, on est contents, hein. Tous les ans, on a du vin. Alors, donc ça sera une très très belle étape, Chusselan, Launay, avec le final, le mur de Launay. Et puis le final d'Alès, qui est tous les ans très haletant, puisque la victoire finale se joue là, mais se joue là aussi avec des costauds. Et on est toujours content de voir un beau vainqueur sur l'étape d'Alès, mais aussi ça donne toujours un beau vainqueur au final de l'Étoile de Bessège. Il y a la course pour la victoire d'étape, hein, ça c'est évident, mais aujourd'hui, toutes les équipes veulent gagner. Hein. Aujourd'hui, l'Étoile de Bessège fait partie, on va dire, dans les courses en France, vous avez le Tour de France, vous avez le Dauphiné Libéré, vous avez Paris-Nice, vous avez les 4 jours de Dunkerque, j'ai dû en oublier un, mais vous avez après, c'est l'Étoile de Bessège avec 5 jours de course. Donc, on attribue des points ici. Donc tous les coureurs viennent chercher les points ici, ils sont importants pour les équipes, ils sont importants pour les coureurs, pour les équipes pour être invités sur les courses World Tour, et pour les coureurs, parce qu'ils en ont tous besoin, pour être leaders et pouvoir aussi faire participer leurs équipes dans le World Tour. Donc ils viennent pour gagner des étapes, pour se rassurer tout de suite dès le début de saison, parce qu'ils viennent plus s'entraîner, ils ont déjà couru depuis un mois. Donc ils viennent pour se rassurer, et on s'aperçoit qu'à l'Est, ils viennent pour se tester sur le contre-la-montre. On a 4 maillots de leader, donc déjà, donc le général bien sûr, le classement par points, tous les jours, donc la victoire d'étape rapporte des points pour le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'au vingtième, et au cumul des jours pour avoir le final. Le classement général, c'est autant, bien sûr, hein, comme sur un Tour de France. Après, le Grand Prix de la Montagne, même principe que le classement par points. Tous les jours, on attribue des points, et on a un leader et un final. Et puis, nous avons le classement des jeunes. Le classement des jeunes, lui, se fait sur le temps, comme pour le maillot du classement général.
Alors, une distance qui est quasiment standard, autour de 150 km.
Oui, alors nous, on reste à 150 km. On pourrait essayer de répondre à une demande et d'augmenter au moins de 10, voire 20 km. Mais on est en début de saison. Peut-être qu'un jour on finira à 160, mais on n'ira pas au-delà.
C'était Patrick Hers, chargé d'organiser cette épreuve, l'étoile de Bessèges, du 1er au 9 février prochain. Le carnet de région, l'actualité en région Occitanie se poursuit avec de suite une opération initiée par le grand chef Alain Ducasse à Paris et qui a été reprise à Montpellier. C'est l'opération des étoiles et des femmes qui a été lancée en septembre dernier et qui a été menée par le restaurant La Table de Cana de Montpellier et qui propose ainsi à 13 femmes en difficulté de se réinsérer en les formant notamment au métier de la gastronomie. L'objectif est de l'accès à la profession à un public plus large. Thomas Loret.
Et au départ, ce n'était pas gagné d'avance selon Gilles Solis, gérant de La Table de Cana.
Pour la restauration, si vous n'avez pas déjà une expérience professionnelle, si vous n'avez pas de véhicule, des problèmes de santé, ben souvent la formation vous est fermée.
C'est pourquoi il a fait de son restaurant une entreprise d'insertion.
Et on va s'occuper en fait de tous les freins qu'il peut y avoir durant toute l'action de formation.
Ce qui permet aux 13 stagiaires de se former, mais aussi de mettre leur apprentissage en pratique en travaillant pour des grands chefs partenaires de l'opération.
Vous avez le Castel Ronsoré, le domaine de Sauriec, Mercure Antigone, la réserve Rainbow.
L'alternance, un modèle qui a séduit Paola Migucci, une des stagiaires de cette promotion.
Je suis en alternance, un stage dans le récent La Diligence de Montpellier.
Cette Italienne vit à Montpellier depuis 5 ans. Elle a abandonné sa carrière dans le social par amour de la cuisine, mais aussi et surtout
pour me rapprocher de mon compagnon qui est déjà cuisinier de métier et avec le projet de travailler ensemble dans notre propre restaurant un jour.
Philippe Hurtel est cuistot formateur à l'INFA et il note déjà de gros progrès.
Depuis leur premier stage en entreprise, on a sorti une très grosse évolution. Elles reviennent du deuxième stage d'entreprise, donc des habitudes sont déjà prises au niveau technique, au niveau rapidité.
Travailler chez des grands chefs, c'est une chance supplémentaire pour elles.
Je leur dis en permanence, c'est une carte de visite d'avoir travaillé chez les grands restaurateurs et ça vaut toutes les formations du monde.
Et il faudra attendre le mois de juin, date de remise des CAP, pour voir si le travail a payé.
C'était le reportage de Thomas Loret de RCF Maglanero. Roland Boissière est un maire heureux. Sa commune Saint-Maurice de Navacelles, qui fait partie du territoire du cirque de Navacelles, qui vient d'être labellisé Grand Site de France. Nous écoutons sa réaction au micro d'Alain Mendès.
C'est le début d'une nouvelle aventure. Et là, aujourd'hui, c'est l'ouverture d'un très grand espoir, déjà, d'une part. Vous savez, le label, c'est trois grandes lignes. La première démarche, c'est la protection. La protection, la préservation de ce site exceptionnel que sont effectivement le cirque de Navacelles et les gorges de la Vis. Oui, on a déjà des protections à travers Natura 2000, puisque nous sommes classés Natura 2000, à la fois pour la faune et pour la flore. N'oublions pas non plus que nous sommes quand même classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais ce label, oui, effectivement, c'est la préservation. Il faut protéger coûte que coûte ces grands sites, ces paysages. C'est la raison pour laquelle, dans les grands projets et les grandes avancées de notre dossier, nous avons mis en avant cette fameuse charte architecturale et paysagère qui est une préconisation pour dire aux gens, aux porteurs de projets, de construction, etc., sur ce site, de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, parce que les paysages n'appartiennent à personne. Et enfin, je dirais, le troisième volet, le volet où là naissent beaucoup d'espoir, partagé par la région, les départements, les intercommunalités, les communes, et moi tout particulièrement sur la commune de Saint-Maurice-Navacelles, où j'ai espoir d'un développement économique raisonné, mesuré, on ne veut pas faire n'importe quoi. Et il faut savoir quand même que le cirque de Navacelles et ses alentours font venir entre 250 et 300 000 personnes et que nous n'avons pas suffisamment de structures d'accueil déjà. Donc, et puis le label va être une note un petit peu suprême donc dans la communication et autres, donc vont certainement générer un tourisme peut-être un peu plus important, mais surtout réguler davantage dans le temps sur l'année.
Alors que là, c'est l'idée, voilà, de l'étendre.
Voilà, jusqu'à présent, on a un flux touristique énorme sur le mois de juillet et d'août, qui pose d'énormes problèmes donc dans le hameau de Navacelles. Et ça, c'est un des volets aussi très, très important.
Il va falloir les travaux d'aménagement pour le stationnement, la circulation, l'intégration paysagère. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est lancé, ça, d'ailleurs.
Voilà, tout ça s'est lancé. Nous avons travaillé énormément donc sur l'aménagement effectivement du hameau de Navacelles avec les parkings à la fois pour les visiteurs, pour les habitants. Il faut également permettre donc des structures d'accueil meilleures sur les belvédères, notamment sur celui de la Baume-Auriol, donc côté Hérault. Donc tout ça, c'est un travail effectivement énorme qui va venir derrière.
Voilà, avec les retombées effectivement que vous évoquiez, hein, derrière, il y a des enjeux économiques aussi. Oui.
Ben, les enjeux économiques, il est évident que le label, on voit déjà l'engouement que porte, en commençant vous, par les médias, pour porter haut et fort ben, les couleurs de notre pays, effectivement. Donc j'ose espérer que dans les années à venir, eh bien, il y a des gens qui vont venir en disant, voilà, on aimerait peut-être faire quelque chose qui irait dans le sens d'un accueil touristique, oui, comme je le dis, mesuré, mais permettre également ce qu'on appelle, nous, l'agrotourisme aussi. Parce que l'agrotourisme fait déjà travailler beaucoup d'éleveurs sur notre secteur, qui travaillent de plus en plus en circuit court. Donc j'ose espérer que ce côté-là va se développer de plus en plus. Et puisse être, et ça je le souhaite de tout cœur, et ça c'est la volonté d'un maire aujourd'hui, de pouvoir peut-être générer quelques créations d'emplois sur tout le périmètre aux alentours du cirque de Navacelles, parce que je suis le maire d'une commune où j'ai la chance encore, la fierté d'avoir une école, pas mal de petits, 36 exactement, et je n'ai pas envie dans les années à venir de voir cette école se fermer. Mais pour qu'une école perdure, eh bien, il faut que des jeunes puissent rester au pays, y travailler. Voilà un petit peu ma vision. C'est tout le mal que je souhaite à ma commune, à ma région, effectivement.
Et le cirque de Navacelles, qui devient ainsi le 15e grand site de France et le 4e labellisé en région Occitanie. Le carnet de région, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Le temps de remercier toutes les radios qui ont été à l'initiative de ces sujets que vous avez pu entendre et à découvrir. Je vous le rappelle, chaque semaine, le carnet de région vous propose divers sujets d'actualité dans la région Occitanie en matière d'économie, politique, sociale, environnement. Retrouvez ce carnet de région chaque semaine sur cette antenne. C'était le carnet de région.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.